Tu me fais un signe comme ça?
Oui. Ok, super.
Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour un podcast des écrans terribles, donc ça s'appelle le podcast des écrans terribles. Je suis Ferouzia Msilti, directrice de publication des écrans terribles. Je suis en compagnie de Gauthier Moindreau, notre rédacteur en chef adjoint.
Bonjour.
Bonjour Gauthier. Et en compagnie de Mohamed Magassa, qui est rédacteur récent chez les écrans terribles et qu'on est heureux de compter parmi nous.
Voilà, bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons parler des Césars. De la 44e cérémonie des Césars qui s'est déroulée il y a quelques semaines. Et comme on est un peu maso, on avait envie de la revoir et de vous en parler et d'analyser un peu, parce qu'on n'est pas juste maso, de quoi les Césars sont-ils le nom? Qu'est-ce que cette cérémonie raconte du paysage du cinéma français? Est-ce que c'est une anomalie dans un paysage, un système qui fonctionne par ailleurs très bien, qui est super dynamique, super moderne? Ou alors est-ce que c'est un peu un symptôme d'un malaise un peu plus profond? On n'a pas d'a priori, parce que c'est pas notre genre, mais on voulait se poser la question. Content d'avoir revu la cérémonie?
Oui, j'ai aimé m'ennuyer une seconde fois. Donc.
Tu l'as vu deux fois?
Oui, voilà, deux fois. Une seconde fois plus... plus réfléchi, et c'était une catastrophe.
Mais là, c'est-à-dire que ça fait quand même partie d'un rituel, du coup, de regarder les Césars quand même?
Forcément, chaque année, on est obligé de regarder. Pour...
Encore?
Oui, on,
encore
est un peu, on est un peu maso, hein, c'est comme ça.
C'est une obligation qui vient d'où? Pourquoi tu dis qu'on est obligé? C'est toi qui te l'impose, ou est-ce que t'as quand même l'envie, malgré tout, de regarder?
Je me l'impose pour voir à quel point là, le cinéma français est en perdition, en fait.
Ok, un peu comme un passeur d'histoire, quoi.
Exactement, tout à fait.
Comme quelqu'un qui regarde le Titanic.
Voilà, ou les ou l'occupation de la France.
Ok, super. Et toi, Gauthier, est-ce que tu avais regardé la cérémonie en direct?
Je l'ai regardée en direct, je la regarde toujours en direct.
Toi aussi, c'est un rituel, donc. Hein, comme c'est un rituel. Critique, mais en fait...
Tu rigoles, mais j'ai toujours eu un rituel depuis... Allez, on va dire que pratiquement 10 ans, je la regarde depuis près de 10 ans. Pour moi, le vendredi des Césars, c'est mon canapé, les Césars et un verre de vin. Et quand je dis un verre de vin, généralement, c'est plutôt une bouteille de vin, oui. Préférablement du chardonnay. Et au début, je finissais pas la bouteille, maintenant...
Ton alcoolisme est dû au César. Tu écris un courrier à Cadmeral, peut-être,
je sais pas. Mais je suis pas mécontent.
Ok, bon, très bien. Alors, est-ce que, justement, cette cérémonie, elle se regarde? C'est-à-dire, c'est 3h30 de cérémonie, si je dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait. 3h15, exactement.
Voilà. Il a chronométré.
Voilà. Exactement. Je regardais ma montre. Hein, ça...
Bah oui, alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que... Donc, ça a démarré cette année par Cadmeral, maître de cérémonie. Christine, oui. Scott-Thomas, présidente. Cadmeral qui... comme il l'a dit lui-même, d'ailleurs, pendant la cérémonie, est un ancien animateur du Club Med et on sent qu'il a donné beaucoup de sa personne, beaucoup d'énergie pour tirer des rires, même des sourires un peu crispés à une salle qui est réputée très froide. Il s'est quand même mis en danger, on peut peut-être lui reconnaître ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il s'est un peu mis en danger, il a fait que quelques sketchs, en fait. Comme d'habitude, avec Manu Payet aussi, il avait fait la même chose. Bon, ça n'a pas... Franchement, la salle a été toujours aussi crispée. devant tout ce qu'il a... Il a pris Queen.
Oui, il a démarré en imitant Freddie Mercury. C'est quand même pas le truc le plus simple à faire.
Oui, voilà. C'était un peu drôle. Mais en fait, les Césars, c'est toujours comme ça. On commence par des trucs marrants. Et après, plus le temps passe, et plus ça devient pénible, en fait, avec le temps.
Est-ce qu'on n'a pas un mauvais esprit? Est-ce qu'on n'a pas un espèce de truc où on regarde les Césars en attendant quoi critiquer?
Ben, en fait, moi, quand je vois CAD, je le vois en train de se donner à fond, d'essayer de bouger la salle. Et on voit surtout les gens qui ont envie de bouger un peu. Mais il y a une force obscure qui les pousse à rester cambrés sur leur fauteuil, en fait.
Et... Qu'est-ce que ça peut être, cette force obscure?
Je pense qu'ils ont pas envie de se taper la honte, en fait.
Ouais, c'est ça, mais ouais. Comment ça se fait qu'on est dans
une... Bah, le cinéma français, c'est un peu un milieu crispé, où on n'a pas trop d'humour, quand on se prend trop au sérieux, en fait, je trouve. Mmh. Et là, avec les Césars, c'est l'apothéose, en fait.
Moi, je dirais quand même que... On critique les Césars, on dit toujours qu'on le fait jamais aussi bien que les Oscars, parce qu'on n'a pas les comédiens pour, on n'a pas le glamour pour, mais les Césars, les Oscars, 95% du temps, ils commencent par une chanson parodique dans laquelle ils parlent de tous les films. Là, on a Kadmerad qui a fait exactement la même chose en parlant de... Enfin, avec la musique de Queen, parce que Bohemian Rhapsody a fait un... Voilà, cartonné absolument partout. Quand il fait ça, on lui dit que c'est ringard, on lui dit que c'est nul, on lui dit qu'il essaye de copier les Américains. Mais par contre, quand on le fait pas, on dit aussi que les Césars savent pas faire comme les Américains. Donc franchement, elle est où la justice là-dedans ? Je suis carrément pas un grand fan de Kadmerad, mais je trouve qu'il a très bien géré son ouverture.
Oui, moi je suis d'accord.
Et je trouve qu'il y a mis une énergie moi, il y avait des moments, au début j'étais un petit peu, il va se casser la gueule, enfin c'est pas possible, il va pas y réussir. Et au final, il y a mis tellement d'humour. Moi, la partie où il dit qu'il fait pas la cérémonie s'il n'y a pas Isabelle Adjani, j'ai trouvé ça super drôle.
Oui, c'est vrai, c'était... Tiens, 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 mais il n'y a pas Adjani.
Tiens, 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 mais où est Adjani ? Il faut avoir conscience, à mon avis, que personne veut être à sa place, quoi. Dans la salle, parmi les comédiens, etc., il y a un peu ce truc d'être en première ligne et de potentiellement se griller. Enfin, il y a quelque chose... Il y a beaucoup de personnes qui font des blagues un peu à moitié, quoi.
Moi, ce dont je suis admiratif dans les cérémonies américaines au sens large, pas forcément les Oscars, mais c'est la manière qu'ont les maîtres et les maîtresses de cérémonie, justement, de capter les spectateurs. Je sais, c'est bête, je me souviens plus quelle était la cérémonie en question. Il y a Megan Mullally de Will & Grace qui a fait une cérémonie il y a pas très longtemps. Elle était.
C'était les Globes ou...
Je sais plus ce que c'était. In 2018, Hollywood did manage to get a few things right. They cast black people in Black Panther. So that was good. Et elle réussissait à capter les gens. En fait, ils se font des vannes entre eux, ils se taclent entre eux, ils se moquent de leur filmographie respective. Il y a une humeur bon enfant chez eux. On a l'impression qu'ils sont là aussi pour kiffer un petit peu.
Ouais. Moi, le maître de cérémonie que j'ai préféré jamais, c'était Neil Patrick Harris, qui pourtant a un côté un peu psychogile et ronchon des fois quand il s'y met, mais qui avait une année chanté It's Not Just for Gays Anymore, et qui c'est une chanson mais absolument géniale, où en plus il y avait plein de sous-textes politiques. The glamour of Broadway is beckoning straights. The people who marry in all 50 states. We're asking every hetero to get to know us better. Oh, it's not just for gays anymore. Mais ce qui frappe, en fait, c'est la précision du tour de chant et du tour de la chorégraphie. Et c'est typiquement un truc que tu peux pas faire à moitié. Et quand t'as peur de te taper la honte, même si t'as le courage d'essayer de faire un truc grand, etc., si à un moment t'as peur de passer pour un con, enfin, c'est ce que t'apprends, tu vois, en cours de théâtre, direct, c'est là où le malaise se diffuse, en fait, et c'est un peu un cercle vicieux, et j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. On peut aussi relever qu'il y a peut-être une volonté d'entrée de jeu de se mettre en compétition avec les Américains, ce que dans l'absolu personne ne nous oblige à faire.
Bien sûr.
On me rappelait à l'instant discrètement notre régisseur préféré, Alexandre Colbert, me rappelait qu'il y a eu la mort de Michel Legrand cette année, qu'il y a eu un hommage à Michel Legrand dans les Césars, mais que ça aurait été tout à fait possible de démarrer par un tour de chant qui serait un hommage à Jacques Demy, à Michel Legrand, etc. Mais que direct on part dans Freddie Mercury et Queen, et qu'il y a un peu ce truc de on a peut-être un complexe, on veut prouver des choses américaines.
Oui, on veut surfer sur la vague en fait du succès de Bohemian Rhapsody, et je vois pas l'intérêt de le faire en France, en fait.
Qu'est-ce que t'en dirais, toi, à côté ? Parce que j'ai l'impression, je sais pas si c'est que surfer sur la vague, parce que par exemple, il y avait le star d'honneur de cette année, comme souvent c'est un acteur américain, là c'était Robert Redford. Je pense 20 fois 30 fois dans la soirée, il y a quelqu'un qui intervient, qui fait « Coucou Robert, hein, on est super heureux que tu sois là, vraiment, machin. » Et il y a un peu ce truc de complexe. Moi, je sens un complexe.
On essaye de se donner une légitimité en invitant des personnes qui sont un peu plus glamour que les comédiens, réalisateurs, etc. français. On essaye de s'auto-valider en disant « On n'est pas totalement... » On sait vendre du rêve, nous aussi. Regardez, on a Penélope Cruz, on a Robert Redford. Après, je suis pas sûr. Que,
enfin, c'est une sorte de complexe en fait, qui s'exprime en fait. Ouais.
Avec qui en fait les d'infériorité. De,
voilà, exactement, exactement. Ils se disent de, ben nous aussi on sait le faire et on va vous le montrer. Mais bon, ils font pas de la bonne façon, moi je trouve.
Je vous souhaite une soirée pleine de bonheur et de fierté pour honorer ce joyau si précieux.
Qu'avez-vous pensé de notre présidente de cette cérémonie, Christine Scott Thomas? Je me tourne vers toi, Mohamed, qui, je crois, a beaucoup apprécié son discours.
Effectivement, effectivement. Le fait qu'elle utilise le côté social pour remercier l'Académie des Césars, c'est une catastrophe pour le message envoyé au...
Est-ce qu'on peut rappeler un peu, c'était quoi, qu'est-ce que tu entends par le côté social? Est-ce que tu pourrais résumer brièvement ce qu'elle
a dit? En fait, elle a remercié la France de lui avoir donné une chance d'être actrice ici. Et quand on connaît le milieu du cinéma français qui est très discriminant, c'est un peu dur à avaler en fait.
Est-ce que tu trouves que Christine Scott Thomas n'est pas une personne qui avait beaucoup de difficultés à s'intégrer?
Il me semble que non. Il me semble que non. En étant anglaise, je pense que... Voilà, la porte était grande ouverte pour elle.
On doit sans doute payer un lourd tribut quand même pour s'intégrer, quand on voit qu'elle a dû prendre la coupe de Mireille Mathieu pour...
J'ai pas compris.
Je me souviens pas du tout de son discours, j'ai bugué sur sa coupe de
cheveux. Elle était très envoûtante, sa coupe. C'est vrai.
Mais en tout cas, c'est peut-être le prix à payer, tu vois, pour se faire accepter en tant qu'immigrée. J'aime la France, j'aime Mireille Mathieu.
En fait, en France, en ce moment, c'est la mode, c'est de se faire passer pour des gens qui souffrent, qui viennent d'un coin difficile, pour montrer qu'en fait, qu'ils ont réussi. Et voilà, moi je trouve que je trouve ça ridicule avec Christine Scott Thomas en fait.
Et surtout que le réalisateur était un peu taquin, donc elle a effectivement en fait rappelé qu'elle avait été elle-même quelque part émigrée, etc. Voilà. Qu'elle a eu des difficultés, qu'en plus là en ce moment c'était le Brexit et qu'apparemment c'était très compliqué pour elle, presque le statut de réfugié politique, cette pauvre Christine. On était vraiment à deux doigts de verser une petite larme, et le réalisateur était un peu taquin et a cadré à ce moment-là. Si je ne dis pas de bêtises, Diane Kruger et Monica Bellucci.
Donc oui, voilà.
Des réfugiés politiques. Tu vois, c'est marrant, il y a un truc un peu vicieux. C'est-à-dire, techniquement, c'est des femmes blanches, européennes.
Tout à fait. Tout à
et
fait.
En même temps, et donc, ça peut paraître un peu ridicule qu'elles affirment. Enfin, en tout cas, les deux autres n'ont rien dit. Mais en tout cas, il y en a une qui affirme qu'elles galèrent. Mais en même temps, eh ben, on relève quand même qu'elles ne sont pas tout à fait françaises. Tu vois ce que je veux dire? Il y a
oui,
un
bien
truc
sûr.
Un peu vicieux, quoi, quand même, non?
Mais ce qui est en plus assez, assez étonnant, c'est qu'on est dans une cérémonie française et sans vouloir faire mon chauvin, etc., on nous montre quand même dans les premières images, dès le discours de Christine Scott Thomas, qu'on nous montre donc cette anglaise que j'aime beaucoup.
Oui, qui n'est pas française.
Mais voilà, qui est donc anglaise. Et pendant son discours, on nous montre une Allemande et une Italienne qui sont aussi connues internationalement. Et il y a l'impression, enfin, les choix de...
Ouais, on voit pas l'intérêt, en fait. C'est des gens qui ont réussi, qui ont eu du succès. Et utiliser ces exemples pour montrer l'ouverture du cinéma français, c'est problématique.
Oui, c'est ça. Il y a peut-être une instrumentalisation, mais en plus, le pire, je pense, totalement inconsciente. Enfin, il y a un truc, c'est du complexe à tous les niveaux.
Oui, oui, ils trouvent ça normal, je pense. Ils se rendent pas compte, en fait, du pied de nez, en fait. Pour les minorités qui ont du mal à intégrer. Voilà, les minorités françaises.
Peut-être, quoi.
Qui ont été dans cette cérémonie invisible.
Moi, j'aimerais bien une cérémonie qui soit marquée sous un thème, tu vois, d'un truc qui revienne en fil rouge de temps en temps. Hormis les blagues
c'est
à deux balles. J'aimerais bien qu'il y ait.
Cette année, ça aurait été bien de faire un hommage entier, vu l'ampleur de l'œuvre de Michel Legrand. Pendant toute la cérémonie, ça l'aurait bien fait, je pense. Mais bon.
On a deux gros fans de Michel Legrand dans la salle avec nous.
En effectivement, fait, okay. Effectivement.
Ok, ok. Ou peut-être trois, si je vois une réaction.
Oui.
Non, ok.
Mes excuses, Bernard.
Mais en tout cas, oui, c'est vrai que là, peut-être on enchaînait, puis il y avait des trucs alors plus ou moins heureux. Peut-être on va pas s'attarder sur Franck Gastambide et son comparse nain qui viennent...
No comment.
Le prix du court-métrage No comment, voilà.
Ah tiens, Gilles, si un jour tu décides de faire Le Petit Bain...
qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était particulièrement gênant? Guillaume Gallienne était un peu gênant même.
Oui.
On ne sait pas où il a voulu en venir.
Je dirais simplement que j'ai toujours trouvé Guillaume Gallienne très gênant de manière générale. Oui. Et je trouve que ce soir-là, il a fait fort. Donc, il a dit qu'en tant qu'homme blanc,
privilégié,
cis, hétéro, il n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit parce que de toute façon, il n'était pas légitime pour...
C'est surtout qu'on s'en fout.
Oui, c'est ça, et qu'on s'en foutait de ce qu'il avait à dire, de toute manière.
D'un air un peu agressif, tu vois.
C'est ça, d'un air...
Un peu revanchard.
Ouais, alors...
Il y a quelqu'un qui lui a dit un truc, ça lui a pas plu, elle leur a dit qu'il allait fermer sa gueule. Et moi, ça me dérange pas qu'il ferme sa gueule, en fait, de manière générale.
Oui, voilà.
Surtout, mais en plus, quand tu te fais connaître par un... avec un film comme Guillaume et les garçons à table, qui avait une vraie sensibilité, une vraie question sur le genre et la perception du genre. Je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, disons que sans l'avoir adoré, je trouvais qu'il posait des questions intéressantes. Mais une remarque comme ça, en fait, ça efface un petit peu ce que tu as fait de bien avant.
Ça
en fait,
efface parce que toutes ses intentions.
Il passe pour un gros con, quoi.
Oui, voilà.
Peut-être que Gadiane a envie de passer pour un gros con. Après tout, c'est le pays de la liberté d'expression et ça, c'est important.
Ouais, mais du coup, tu n'as pas envie de
liberté d'expression, c'est des pour qui, hein.
Oui, on va en revenir aussi. Non, voilà. Là, on va y revenir aussi.
Bonsoir Laurent. Bonsoir Gad.
Gad.
Et donc ça veut dire qu'ils ont laissé passer des sketchs qui n'étaient pas drôles mais qui ont dû être validés par plusieurs personnes.
Bah, en fait, en général, alors ça c'est, bon, tu vois, toute l'expérience de l'audiovisuel, plus il y a de personnes qui valident, moins c'est drôle. C'est un grand risque. Parce que ce qui est potentiellement percutant dans une vanne, c'est... comment dire, le fait de prendre un minimum de risque ou en tout cas de tenter un truc qui soit très précis en termes de sensibilité, s'il faut faire valider par 20 personnes qui trouvent pas les mêmes choses drôles et qui ont peur de ci, de ça, enfin ça limite, moi j'excuse personne.
Une cérémonie des Césars sans Jamel Debbouze, ça serait pas vraiment une cérémonie des Césars.
Il y a aussi le sketch avec Jamel Debbouze,
sans
aucun intérêt en
non.
fait. C'est le même sketch de Jamel Debbouze depuis 99. Donc je pense qu'à un moment...
La dynamique Jamel Debbouze, tu vois.
Oui, mais...
1999.
J'ai envie de dire à Jamel Debbouze, il faut partir. Il faut pas rester ici. On a fait le tour avec lui. Et voilà, il est plus drôle. Il faut avancer dans la vie. C'est comme ça. Hein.
Ok.
Mais là, est-ce que c'est lui qui est pas drôle ou est-ce que c'est ce que Cadmeral lui a demandé de faire?
Ah oui, c'est un peu des deux, je trouve. Parce qu'en fait, Jamel Debbouze est toujours dans son rôle, en fait.
Oui. Il a son personnage.
Voilà, de son personnage qui est plus drôle depuis des années. Et plus le sketch, on a envie d'avancer, en fait.
Pour rappel, donc, le sketch, c'était Ken Mirat qui disait que Jamel Debbouze ne pouvait pas être là parce qu'il était à Los Angeles, je crois.
Voilà.
Quelque chose comme ça, alors qu'on le voyait sur les bords de scène, en train d'enregistrer une vidéo derrière un décor très représentatif de Paris.
Paris. Avec Ken Mirat dans la vidéo.
Voilà, donc c'était très gênant aussi.
C'était ridicule pour moi.
Et à côté de ça, je trouve qu'on a eu des vrais bons moments dans cette cérémonie.
C'est une horreur d'être ici ce soir pour...
Un honneur.
Laurent Sarné, j'ai trouvé son sketch très drôle. Je sentais que c'était bien préparé, que t'avais une vraie rythmique, que t'avais un running gag au sein de 3 minutes.
Voilà.
Quelque chose qui était très construit et très intelligent. Et moi, elle me fait rire quand elle pète un câble, c'est le moment où c'est contrôlé, où ça... Tu vois, il y a un petit truc
Où ça vrille.
Voilà.
Ou comment ça
et elle vit très bien, Laurent Sarné. Moi, je trouve qu'elle fait ça vraiment très bien. Et quand elle dit qu'elle va remettre le César de la salope, ou quelque chose comme ça, moi, ça m'a fait très rire.
Moi, j'ai trouvé ça très bien aussi. Mais alors, j'avais relevé juste avant que Audrey Fleurot, quand elle remettait le César du meilleur espoir féminin, j'étais surprise parce qu'elle commençait à citer Serge Danet pour expliquer qu'en gros l'espoir féminin c'était le désespoir et en gros tenir un peu un discours sur la limite dans les droits des femmes et un peu la manière dont les femmes sont traitées comme des objets ou comme des personnes au service d'eux. Du coup, et le sketch de Laurent Sarné était bien, tu vois, mais j'ai quand même relevé que du coup c'était un catfight autour du après une robe, tu vois, sur une robe juste après ce truc-là. Il y a un autre moment, moi je suis pas méga fan non plus de Laurent Lafitte qui est arrivé avec une espèce de faux lifting, soi-disant pour dénoncer la foi de trop. J'ai relevé aussi qu'il avait dit, et comme les comédiennes le savent souvent, il y a une foi qui est la foi trop. Donc en gros, j'ai mieux compris pourquoi est-ce que la pauvre Audrey Fleurot était obligée de citer un mec, tu vois, genre qui a l'air bien sérieux, genre Serge Danet, pour pouvoir faire valoir que, qu'il y a un problème peut-être de sexisme dans le cinéma. Parce que de fait, même quand on fait faire des trucs un peu inoffensifs, En fait, c'est un poil borderline, tu vois. Mmh. Rien, le catfight pour une robe, c'est un truc... Enfin, le fait que les femmes sont censées se battre tout le temps entre elles et se tirer un peu les cheveux, c'est un peu des clichés, tu vois. Mine de rien, très inoffensif, dans l'absolu. Mais c'est aussi rigolo parce que Léa Drucker, quand elle a reçu son César, à un moment, elle dit, on se rend pas compte qu'il y a des... En termes de courant de pensée ou d'idéologie, il y a des choses qui paraissent inoffensives, mais on se rend pas compte que c'est un début de menace. Pas du tout faire ma... relou et plomber l'ambiance avec la minute féministe, mais c'est juste que pour le coup, comme tu en parles, j'ai, en fait, ça, comme ça, ça s'enchaîne vraiment avec le discours d'Audrey Fleurot que j'avais trouvé.
Il y avait un timing étonnant.
Et ouais, tu vois, il y avait un timing un peu étonnant, mais en tout cas, l'inconscience de ce truc-là, quasi toutes les comédiennes ont eu droit à un commentaire. Tu vois, a priori sympa sur le fait qu'elles étaient photogéniques de tous les côtés, ou très belles, ou très bien habillées.
Ça, c'est vrai qu'Ad a un peu appuyé sur ça.
En fait, c'est des trucs très easy en termes de choix de vannes ou de manière de présenter les femmes, etc., les comédiennes, dans un contexte où ils n'ont pas arrêté après de remettre des prix sur des films qui dénoncent les violences faites aux femmes ou machin. Donc c'est une manière un peu de faire son beurre sur la dénonciation des violences sexistes, tout en étant hyper lourd et pas très moderne, quoi, dans la manière de parler des femmes.
Et surtout, et je sais que beaucoup d'actrices dans la salle seront d'accord avec moi ce soir, de faire bien attention à éviter la foi de trop.
C'est l'image du cinéma français en ce moment, en fait. Ils utilisent des causes pour faire des films, pour faire de l'argent, par exemple. Et d'un autre côté, on voit qu'ils luttent pas spécialement pour les inégalités, ou etc., en fait. Et ça arrive souvent dans le cinéma français. On peut parler du racisme, du sexisme, et c'est un festival dans le cinéma français.
Je voudrais juste saluer toutes les femmes, toutes les féministes, celles qui écrivent, agissent, prennent la parole et défendent au quotidien la cause des femmes, qui bravent parfois des tempêtes d'insultes et d'agressivité en tout genre. Et je voudrais les remercier parce qu'elles m'ont permise, en m'éveillant, d'être la femme que je suis aujourd'hui. Merci infiniment.
Ça m'a gêné un peu qu'on... Le discours de Léa Drucker, elle m'a pas gêné. Mais après tout ce que j'ai vu comme remarque dans la cérémonie, et de voir ensuite le discours de Léa Drucker, je me suis dit, ah ben ça fait un peu bizarre.
C'est-à-dire ?
Un peu bizarre sur le fait qu'il y a eu quelques remarques sur les femmes, des petites blagues sur les femmes. Et ensuite, on arrive à un discours sur les femmes battues, légitime. Vraiment, il était exceptionnel, ce discours de Léa Drucker, et on a senti l'émotion. Mais c'est un peu amer quand tu vois le déroulement de la cérémonie.
C'est ça, ok. Donc, t'as ressenti la même chose que moi.
Exactement.
Ouais. Et toi, t'en as pensé quoi ? Enfin, après, c'est pas forcément flagrant non plus, mais il y a un truc de facilité, quoi, peut-être un peu de complaisance.
Non, moi, je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'intervention de Laurent Lafitte, qui, pour le coup, m'a fait beaucoup rire tout en m'étant très mal à l'aise, parce que pour le coup, ce que j'aime beaucoup,
j'ai l'impression que c'était le but.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, il arrive, il justifie rien, il fait même pas spécialement référence au fait qu'il soit hyper botoxé de partout. Ouais. Ça, en fait, c'est là, tu ne vois que ça, mais comme tu n'en parles pas, ça crée une espèce de malaise. Et moi, j'ai trouvé ça vachement intelligent de sa part, tout en ayant l'impression de voir de plus en plus Michel Leeb.
C'est vrai.
C'est vrai.
Mais
c'est vrai.
Je trouve, sans l'accent africain, bien sûr.
C'est
hein.
Ça.
Oui,
mais je trouve, comme tu disais, que c'est très dommage qu'il ait eu cette petite pique à la fin en parlant des comédiennes, alors que devant lui, il avait quand même Mister Moumout, Robert Redford.
Absolument, qui en fait est niveau bistouri.
Bah oui, c'est ça. Et en fait, je trouve qu'il a manqué son coup là-dessus, et c'est ce que je lui reprocherais si j'avais à reprocher quelque chose. Mais à côté du manque de finesse qu'il y avait dans cette cérémonie, je trouve qu'il en a fait preuve largement plus.
Moi, je voudrais surtout faire un petit coucou à Cad et Olivier.
Les deux mecs du Camoulox et de Jean-Michel à peu près, qui se retrouvent tous les deux sur la scène des Césars, c'est quand même assez inattendu. Et je pense qu'il y a 15 ans, ils ont arrêté de faire Cadéo pour essayer de faire autre chose de leur vie, même si je suis pas super client de leur cinéma et de ce qu'ils essayent de faire. Ils ont quand même réussi à fédérer énormément de gens,
ah oui,
chacun de leur côté, plus que quand ils étaient tous les deux, ce qui n'est pas toujours le cas quand des équipes se séparent. Et il y a quand même, ouais, comme tu le dis, il y a une revanche. Il y a le fait qu'on dise, on était des... c'était les Bouffons du Roi, tu vois.
Ouais.
Et les Bouffons du Roi, maintenant, ils font 5 millions d'entrées au cinéma à chaque fois qu'ils sortent un tuche, ou ils en font, je ne sais plus combien avait fait Vianney Ashti. C'était il y a longtemps maintenant. Mais personne ne les attendait, et certainement pas moi, sur la scène des Césars.
Mais du coup, il y a tout, peut-être, parce que c'est, on peut en parler de ce César du public, c'est un lobbying intense.
Ça a été un moyen de pression, en fait. Et je comprends, comme on se disait, les films qui sont récompensés au César sont pas forcément toujours faciles d'accès et ne représentent généralement jamais les succès en salle.
Clairement.
Et parfois, ça se comprend. Parfois, ça se comprend pas que Le Grand Bain, il ait juste eu un second rôle masculin. Même si je le trouve pas parfait, ce film, je trouve qu'il a plein de qualités. Il aurait pu choper d'autres choses.
Mais honnêtement, je pensais que c'était son année pour Le Grand Bain.
Ben parce voilà, que on va prendre la minute Grand Bain.
Mais attends, ouais, avant de terminer ça.
Ah, non, pas tout de suite.
Je trouve qu'en fait, donc ils ont cédé à une pression pour créer ce prix du public. C'est la deuxième année. L'année dernière, c'était Danny Boone qui l'avait eu. Cette année, c'est donc Olivier Barou pour Les Tuches. L'année prochaine, ce sera peut-être encore Danny Boone.
Une pression du public
qui se reconnaît plus et d'une académie qui se sent attaquée par le fait qu'elle est peut-être vachement élitiste et qu'en fait, la comédie, par exemple, elle a le droit d'être récompensée au César aussi.
Sans doute relayé par les exploitants ou les distributeurs.
Ou Danny Boone
lui-même.
qui avait fait pas mal de sketchs où il disait qu'il en aurait jamais de sa vie. Ouais. Mais ce que je regrette, en fait, c'est peut-être le choix d'appeler ça un prix du public, parce qu'à chaque fois qu'on entend un prix du public dans un festival ou dans quoi que ce soit, c'est le public qui vote. Là, c'est pas un prix du public, c'est un prix des entrées, c'est un prix de la thune. On récompense le film qui a fait le plus d'entrées, qui a ramené le plus d'argent dans les caisses du CNC, qui a ramené plus d'argent. Et c'est dommage, je trouve, ils ont raté un truc en récompensant automatiquement le plus gros succès de l'année précédente et en ne laissant pas, au contraire, le public choisir le film que lui, il a préféré cette année.
Ils auraient pu être plus pertinents. Est-ce qu'il y a pas un mépris, on peut employer ce terme-là, peut-être, de la profession envers les succès du grand public envers ce que ça représente. On parlait tout à l'heure d'une espèce de complexe par rapport au cinéma américain qui, lui, pour le coup, s'embarrasse pas du tout. Il n'est pas gêné par rapport au succès public, même s'il y a quand même des films calibrés pour les Oscars ou pour les cérémonies particulières. C'est un autre type de formatage, mais en tout cas, personne ne va jamais dire, avec un peu la bouche pincée, un tel film a fait tant d'entrées en salle. On se demande bien pourquoi les gens sont un peu cons, quoi. Oui, ce que je veux dire,
ils ont
ça,
pas ce côté-là.
Français,
je...
quand même,
oui, de... complètement. Les États-Unis, ils ont aucun mal à décerner, je crois que c'est 11 Césars ou 11 Oscars ou je sais plus combien au Seigneur des Anneaux.
Oui.
Enfin, ils ont aucun problème, c'était un carton en salle. En même temps, il était admirablement fait. Donc, j'étais admiratif de ça. Mais ils ont aucun souci à récompenser des films qui marchent.
Après, si on regarde la qualité des comédies françaises, forcément, le cinéma français sera méprisant avec cette catégorie.
Oui, mais est-ce que, je rebondis et je te laisse répondre, mais est-ce qu'on ne peut pas concevoir que le mépris, en fait, inhibe créativement des velléités de comédie qui seraient peut-être plus d'auteur ou plus singulière, etc. Parce qu'il y a quand même quelque chose, même si on... Parce qu'on revient sur le titre de cette émission, de quoi les Césars sont-ils le nom. Là, on a passé une première partie à décrypter un peu, de manière ironique, les sketchs qui ont été faits. On avait l'impression qu'ils étaient faits un peu avec détachement, un peu avec distance. Il n'y a pas une forme d'ironie ou de mépris pour ce que c'est que l'humour, pour ce que c'est que l'immédiateté du rire, qui en fait empêche de se déployer un peu dans la comédie et qui va forcément laisser les comédies grand public leur permettre d'être particulièrement démagos peut-être.
Tu résumes la cérémonie des Césars, en fait. Dès qu'ils avaient envie de faire un sketch, les gens n'avaient pas très envie de rigoler, en fait. Le mépris qu'ils ont pour les comédies françaises, ça se ressent dans les cérémonies cérémonie des Césars, en fait.
C'est n'importe quoi. Bon, ok. Que dire? Eh bien, j'envoie ce César à Gilles Lelouch.
Il est où, Gilles?
Mais là, cette année, on avait quand même Le Grand Bain. Que vraiment, je reviens dessus. Pour moi, il a énormément de qualité, ce film.
Non, on a mis Le Grand Bain.
On va y aller, ouais. On avait En Liberté, qui avait d'autres qualités aussi. Pour moi, En Liberté, il pouvait prétendre à des récompenses. Il s'est fait snobber au possible. Je trouve que, par exemple, le meilleur montage à Jusqu'à la Garde, alors que t'as En Liberté, qui, pour le coup, repose quasiment, mais vraiment à 80% sur son montage, je trouve ça cruel et je trouve ça dévalorisant. Il y a quelque chose où j'ai l'impression qu'en fait, il y a des films, et il y en a toujours... Ouais, il y a toujours des films qui fédère. Et j'ai toujours cette impression à un moment, quand tu vois qu'un film récupère beaucoup trop, on peut le dire parfois, de récompenses, que les gens ont voté par automatisme, alors qu'à côté, il y en a d'autres qu'ils n'ont même pas considérés. Et j'ai l'impression qu'En Liberté ou Le Grand Bain n'ont pas été considérés sur certaines de leurs qualités. Et je trouve ça dommage. Et peut-être que c'est lié au fait que ce sont des comédies.
Pourtant, c'était une comédie bien écrite, pour une fois.
Alors, et tu parles du Grand Bain, là ?
Oui, pour Le Grand Bain, il y avait un côté social qu'on retrouve pas vraiment dans les comédies françaises, ou qu'on l'utilise d'une autre façon, en fait. Et
il avait clairement une démarche de mise en scène plutôt attractive, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas les codes un peu.
Exactement. Tout était réuni.
Peut-être un peu sinistre, quoi.
Voilà. Ouais. Tout était réuni pour moi, pour le triomphe au César. Et patatras. En fait,
Il y avait un autre film du même producteur, le film du Trésor Oriental, pour ne pas le nommer, qui dû rentrer chez lui avec le seum, je pense qu'on peut le dire. Il y avait Pupille aussi, qui n'a pas du tout eu de prix.
Oui, c'est vrai,
pourtant Pupille. Un grand succès public. Est-ce que ça vous inspire ?
Alors, ça va moins m'inspirer dans le sens où celui-là, je ne l'ai pas vu.
Moi aussi.
Mais j'en ai entendu, enfin, pour ceux qui ne savent pas, je bosse aussi dans un cinéma, j'en ai entendu des merveilles de tous les spectateurs qui l'ont vu et de mes collègues qui l'ont vu.
Le Grand Bain, c'était un raz-de-marée.
Le César de la meilleure actrice est attribué à une amie, Léa Drucker.
Le César du meilleur film est attribué à Jusqu'à la garde, produit par Alexandre Gavras, réalisé par Xavier Legrand.
Moi, je l'ai vu Jusqu'à la garde. J'avais bien aimé à l'époque. Beaucoup de gens ont essayé de le vendre comme un film social. Mais c'est avant tout un thriller pour moi. Mais en utilisant les codes sociaux qu'on retrouve souvent dans le cinéma français. Le film, c'était plus pour le suspense.
Est-ce que tu pourrais résumer brièvement pour ceux qui nous écoutent l'intrigue du film ?
Une femme qui a divorcé avec son ancien mari, violent, et qui, on va dire, qui est un peu poursuivie par lui un peu partout dans sa ville, en fait.
Toute l'intrigue juridique, en fait, autour de la garde de leur enfant.
Exactement.
Ok. Et t'as retrouvé que c'était plus un thriller qu'un film social, finalement ?
Pour moi, je trouve... Pas pour la première partie, mais la seconde partie, c'est forcément un thriller pour moi.
C'est intéressant que tu dis ça. Toi, Gauthier, t'en as pensé quoi ? Ok, donc Gauthier n'en a pas pensé grand-chose. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport à Jusqu'à la garde, c'est que, en fait, c'est un film qui me trouble un peu parce que il y a effectivement tout ce côté très procédural, juridique et tout. On montre bien comment on peut être écrasé, même quand a priori, on ne devrait pas avoir à justifier quoi que ce soit. C'est un film qui a l'air de partir de beaucoup de bonnes intentions, qui est adapté d'un court-métrage qui s'appelait Avant que de tout perdre, qui était tourné avec sensiblement la même équipe, puisque, comme Léa Drucker l'a fait remarquer, j'ai un problème avec ce film, c'est que je trouve qu'il est un peu manipulateur, sans vouloir spoiler, donc minute spoil pour ceux qui ne veulent pas écouter. Après, dans une démarche de dénonciation, ou de la femme qui va être la personne... qui est victime de violence, qui est seule face aux institutions judiciaires, qui est seule face à son mari, qui est très manipulateur, etc. On a quand même une fin de 15 minutes de hurlement dans une baignoire, avec accroché à son gosse et tout, un truc très primal. Et j'ai presque trouvé que c'était manipulateur. Pour moi, c'était pas obligé de faire ça. Et du coup, ça m'intéresse que tu dises thriller, parce que en fait, on repasse par l'émotion, quoi. D'une certaine manière, mais une émotion un peu... peut-être un peu reptilienne, quoi.
Au début, ils sont passés par la procédure du divorce, ça donne un côté social. Et je pense que c'est ça qui dessert le film, à la fin du film, en fait. Parce qu'on est dans une sorte de huis clos dans un appartement contre le mari violent. Et là, il n'y a plus aucun intérêt dans la première partie. En fait. Et on voit, et ça donne quelque chose d'ambigu sur le message.
Le meilleur espoir masculin est attribué à...
Dylan Robert.
Il joue un jeune caïd sortant de prison rejeté par sa mère qui, entraînant dans les quartiers populaires de Marseille, va se lier d'amitié et d'amour avec une jeune prostituée s'improvisée Mac. Ce film a été découvert à la semaine de la critique. Dylan Robert a été informé du casting par son éducatrice à sa sortie de prison alors qu'il s'apprêtait à reprendre une formation de carreleur.
Dans le cinéma français, on le voit souvent depuis quelques années, on fait rentrer les minorités pour les meilleurs espoirs, pour le premier film, par exemple. Et après, on voit, ils disparaissent. Quelques années plus tard, on les revoit plus. Et Sherazade, c'est clairement cet exemple. Je prends en compte, en fait, par exemple, avec Dylan Robert et Kenza Fortas.
Pas que issus des minorités, ils sont surtout amateurs.
Oui.
Et on a rappelé leur.
Et qui ne sont pas acteurs de métier.
Et dont la voix off, encore une fois, a rappelé des parcours un peu chaotiques, de vie,
voilà, c'est vrai.
En foyer, ou etc. Donc il y a quand même un peu ce truc, la belle authenticité.
Mais moi, j'ai aimé, moi, je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Je pensais que c'était Ophélie Beau qui allait gagner, en fait. Ophélie Beau de Make to My Love. Et moi, je me dis dans ma tête que Dinah Robert, Kenza Fortas, je vois pas d'issue, en fait, pour la suite de leur carrière. Le César du meilleur espoir, c'est comme un cadeau empoisonné, je trouve.
Tu veux dire qu'un cadeau empoisonné, c'est que tu les récompenses pour ça, mais en disant que tu les embaucheras plus derrière ?
Exactement. Exactement. Parce que on a envie de leur donner la chance d'être dans le cinéma français, mais pas trop. Voilà. Et je me dis qu'un grand rôle, c'est impossible pour un Dinah Robert, par exemple. Je pense que le temps va confirmer tout ça.
Ouais. Bah, y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre de tenir la distance, surtout dans un milieu où apparemment c'est courageux de produire les films de Jacques Audiard.
Je voudrais aussi saluer Pascal Cocheteux, parce que je trouve que c'est vraiment formidable d'avoir ce courage de produire un film pareil.
Tu l'aimes pas, Jacques Audiard ?
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Attention, non, je précise ce que je voulais dire. C'est-à-dire que si une personnalité comme Jacques Audiard, qui est un réalisateur confirmé, qui a déjà eu plusieurs Césars, on entend...
Palme d'or aussi.
Et qui palme... Enfin, il n'y a aucun... Tu vois, il n'a rien à prouver ou quoi. Si on entend ces techniciens faire remarquer que son producteur a une démarche courageuse, c'est-à-dire qu'en gros c'était difficile de financer son film, Jacques Audiard, tu vois, c'est courageux parce que peut-être, bon, effectivement, son film, ça se passe aux États-Unis, c'est en anglais, etc. C'est peut-être pas le projet le plus simple, mais enfin, a priori, on pourrait se dire courageux. Ok, dur, ok, mais courageux.
Oui. Non, courageux, le mot est trop fort.
Bah oui, ça veut dire que si c'est courageux pour lui...
c'est impossible pour les autres.
Et c'est impossible pour les autres, voilà. C'est exactement ça que je voulais dire. Et je rebondis du coup sur ce que tu disais, sur le fait que... Est-ce que le cinéma a envie d'inviter des meilleurs espoirs aussi fragiles techniquement ? Parce qu'il faut, encore une fois, tenir la distance dans un milieu qui est très codifié.
Exactement. Tiens,
mais y a pas à jeûner. On rappelle rapidement ce que c'est que l'Académie, puisque mine de rien, on n'a pas commencé par ça. L'Académie, donc, c'est à peu près 4600 personnes, je crois, 4681, j'ai pas le chiffre sous les yeux, composées de professionnels du cinéma qui soit ont même été nommés au César et qui du coup peuvent, sur simple demande écrite, rentrer à l'Académie, ou alors doivent faire une demande écrite en étant parrainés par deux personnes qui font déjà partie de l'Académie. Donc en gros, c'est la reconnaissance des professionnels, des gens qui travaillent dans le milieu. Il y a une cotisation qui n'est pas donnée. Il faut aussi, pour les producteurs qui ont sorti leur film, payer pour être dans le coffret des Césars. Donc ça, c'est un peu le mode de fonctionnement. On rappelle aussi que l'Académie des Césars est une association qui, en fait, se targue de ne pas toucher d'aide publique et de fonctionner uniquement sur les cotisations, les partenariats privés, etc. Et qui a à sa tête le producteur Alain Terzian, qui a produit, entre autres, Les Visiteurs, Les Innocents de Téchiné, si je ne dis pas de bêtises, Opération Cornet Beef aussi. Je ne crois pas qu'Alain Terzian ait obtenu un César en tant que meilleur producteur.
Je pense que ça se vérifie peut-être si
l'oreillette nous entend. Peut-être qu'une pourrait chercher si Alain Terzian a obtenu un César.
Un homme en slip, c'est fragile.
Je me demande un peu pour qui la cérémonie des Césars, à qui elle est adressée, en fait, maintenant. Je me demande, est-ce que c'est adressé aux jeunes qui rêvent de faire du cinéma ? Parce qu'il y a 10 ans, quand je regardais, j'avais l'impression qu'ils me parlaient à moi en tant qu'aspirant scénariste un jour, peut-être. Tu vois, ça me faisait rêver, j'avais l'impression qu'ils me parlaient à moi. Maintenant, il y a des fois, je me demande si ils parlent... aux spectateurs plus confirmés, à la ménagère de 50 ans qui a des rêves de cinéma qu'elle n'a jamais assumés, où est-ce qu'ils se parlent entre eux, en fait, je ne sais pas, c'est vraiment une question que je me pose, et je pense que cette cérémonie-là, je trouve qu'elle avait justement le cul entre deux chaises, enfin c'est un discours plus global que j'ai maintenant, mais entre une présidente qui est quand même très à réessayer et un maître de cérémonie qui est un peu plus guignol, et je ne sais plus à qui il parle et je sais plus pourquoi il me parle en fait. Et dans les œuvres qui sont récompensées, c'est un petit peu ça aussi. Et j'ai trouvé que c'est plus très politique. Enfin, en tout cas, dans les discours, etc., c'est plus très politique cette année. Je sais qu'il y a eu des années où ils essayaient d'être un peu plus poil à gratter. Maintenant, c'est un petit peu plus lisse. Quand tu avais Antoine de Caunes qui disait en 2012 ou 2013 que un géant du cinéma était mort quand Mega Upload a fermé. Enfin, il y avait des côtés vraiment où ils aimaient bien rentrer dans
l'art. Oui, tout à fait. C'était beaucoup plus consensuel.
C'est ça, je trouve qu'ils sont plus consensuels.
Edouard Pell était assis à côté de Jean-Michel Blanquer. Ça m'a beaucoup perturbé. Pardon.
C'est vrai, ça.
Très bizarre. C'est vrai.
Et je me pose vraiment la question, en fait, de... Enfin, si le cinéma français se cherche une légitimité, je me demande aussi quelle est la légitimité de l'émission maintenant, en fait, parce que je sais plus à qui ils parlent, je sais plus ce qu'ils veulent dire, parce que à faire des sketchs, j'ai l'impression que cette année, plus que d'autres, comme il n'y avait pas trop de sujets politiques sur la table, c'était un discours pompeux, genre le cinéma c'est important, le scénario c'est important, il n'y a pas de bons acteurs s'il n'y a pas de bons scénarios, enfin les discours qu'on a tous les ans et qu'on n'en peut plus d'entendre, ou des sketchs qui n'ont plus de substance non plus. Et je regrette les cérémonies précédentes qui osaient prendre des risques, qui osaient mettre des sujets sur la table. Blanche Gardin l'année dernière, quand elle demandait si les producteurs ils ont plus le droit de violer les actrices, mais est-ce que les actrices ont encore le droit de coucher pour des rôles, il y avait des préoccupations en fait, et je me sentais un peu concerné parce que je voyais, parce que du coup ça abordait les sujets qui étaient dans l'air. Cette année, je trouve qu'il n'y avait pas de sujet dans l'air, en fait. Oui,
que, du alors coup, que bon, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'actualité dans l'air en France en ce moment.
Tout à fait.
Ouais, pour une des années les plus sociales de l'histoire du pays, je pense.
Ouais. Ben, et que voilà. Du coup, la seule référence que tu aies pu y avoir, c'est Gallienne qui dit qu'il doit fermer sa gueule parce que c'est un homme blanc hétéro.
Oui, bon, après c'est compensé par la victoire de Jusqu'à la Garde techniquement, bien mais sûr. C'est vrai que si pendant toute la cérémonie on a la sensation que la cérémonie cherche sa propre légitimité, on peut pas faire grand chose pour elle si elle-même ne le sait pas en fait. C'est ça qui
me perturbe moi maintenant, ce qui m'a pas empêché de la regarder jusqu'au bout malgré les... malgré le temps qui file et l'ennui et le bouteille de vin qui se termine, mais j'aimerais bien qu'ils réussissent à nous parler en fait et à nous raconter des choses au-delà juste de s'autocongratuler.
Mais je me demande vraiment s'ils ont envie de nous parler en fait.
Je pense qu'il faut qu'ils essaient de ne pas faire de dépression. Je pense que c'est leur première préoccupation. Est-ce que vous regarderez l'année prochaine?
Forcément.
Oui, pareil. Ça reste mon rendez-vous. Je le regarderai. Les deux dernières années, je les ai regardés avec une copine et du coup, on commentait entre nous et c'était vachement rigolo. Cette année, je l'ai regardé tout seul et je la commentais avec mon portable. C'était moins rigolo.
C'était moins
rigolo, mais ça faisait plus d'alcool pour moi.
Et, c'est bien.
Voilà, le verre à moitié plein. Bon, là, pour le coup, il était très vide à la
fin. La bouteille.
Et je regarderai tout en espérant. Je me dis que de toute manière, l'année prochaine, il n'y aura pas de film de Jacques Audiard. Donc tout de suite, ça va redistribuer un peu les cartes. Donc en 2013, je crois, Antoine de Caunes, dans sa vidéo, son speech d'ouverture, il disait qu'il avait, enfin, il se mettait en scène dans un cauchemar en disant « Oui, le prix du meilleur film est attribué à Jacques Audiard !» Enfin, parce qu'il se réveillait en mode « Ça ne peut être que Jacques Audiard !»
Ça peut être que Jacques Audiard.
Donc voilà, l'année prochaine, il y aura d'autres cartes, il y aura d'autres prétendants, et il y a toujours cette curiosité un peu infantile, un peu naïve. On se dit qu'en fait c'est quand même nos chouchous qui vont gagner parce que mais bien sûr que ce sera lui et ce sera pas lui.
Oui, voilà.
Voilà. Et on sera toujours dégoûté et donc on va râler sur les réseaux sociaux en disant que c'est des cons et qu'ils savent pas ce qu'ils veulent et qu'ils élisent toujours les mêmes. Mais ça fait partie du jeu aussi.
Ça fait partie du jeu. Bon, bah alors c'est les mots de la fin. On est d'accord?
Oui, on est d'accord.
Je tiens un mot de la fin.
Fin.
Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau podcast des Écrans Terribles.
Merci.
Merci, salut.